Bonjour Alexandre Lorog.
Bonjour.
Et vous êtes un fin connaisseur du Brexit, qui est peut-être un métier d'avenir, puisque vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler une commission de suivi du Brexit. Les députés britanniques ont donc voté samedi pour un nouveau report du Brexit. Est-ce que c'était le scénario auquel vous vous attendiez ?
Alors, les députés britanniques, c'est très particulier, c'est très compliqué, mais avaient anticipé la question.
Tout est très compliqué, il faut le dire d'emblée, mais...
Ils avaient anticipé la question, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont forcé le gouvernement à demander un report. De mauvaise grâce, que Boris Johnson a fait de mauvaise grâce, puisqu'il a envoyé plusieurs lettres,
ouais,
une où il demandait un report,
ouais, c'est ça.
Une autre où il disait, moi personnellement, je pense qu'un report c'est une mauvaise idée.
Une lettre non signée dans laquelle il demande le report pour se
Exactement.
Conformer aux obligations législatives, et l'autre dans laquelle il dit, en gros, il ne faut pas nous l'accorder.
Exactement.
On est quand même en pleine schizophrénie.
Exactement. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui et qui sera peut-être résolue cet après-midi, puisque normalement, le gouvernement veut faire passer l'accord. C'est qu'il nous faut une réponse sur l'accord lui-même. Mmh. Il faut que le Parlement tranche le oui contre le non. Parce que ce qui s'est passé samedi, c'est qu'il y a eu cette question du report, mais surtout que ça veut dire que le Parlement n'a pas voté sur l'accord. Donc on ne sait pas si le Parlement est prêt à accepter l'accord ou pas tel qu'il est. Et aujourd'hui, ce qu'il faut être très clair avec nos amis britanniques, la question pour nous ne se pose pas tant que le Parlement britannique n'a pas tranché si oui ou non il veut cet accord. Parce qu'on a un Parlement britannique qui, depuis maintenant 2 ans, nous dit non. Il nous dit non sur toutes les alternatives possibles et imaginables. Il y a une majorité quasiment contre toutes les issues. Il faut maintenant qu'ils nous disent ce qu'il faut pour avoir un oui, pour avoir un Parlement britannique qui soit ouvert à un accord de sortie.
Alors, pour qu'on comprenne, même si c'est très compliqué, il faut que vous nous expliquiez. Parce qu'en fait, c'est un député qui est favorable à l'accord qui a été obtenu jeudi dernier, qui a contraint le gouvernement à demander ce nouveau report, pour s'assurer que l'accord, une fois voté, serait bien respecté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que c'est pas simple.
C'est pas simple. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait des doutes sur la volonté de certains membres du gouvernement de mettre en œuvre l'accord s'il était voté et de ne pas jouer la montre et de laisser le Royaume-Uni sortir sans accord. Et donc un député qui soutient l'accord a mis une condition pendant le vote pour s'assurer que le gouvernement, non seulement que l'accord soit voté par le Parlement, mais que le gouvernement véritablement le mette en œuvre et qu'il n'y ait pas d'autre issue possible. Ce député, il soutient l'accord et il a dit très clairement, entre-temps, qu'il voterait pour l'accord une fois que l'accord serait soumis au Parlement.
Parce qu'il s'agit d'un paquet de mesures, en fait, qui vont accompagner la mise en œuvre de l'accord.
Exactement. Voilà. Donc le député veut s'assurer que toutes ces mesures sont mises en œuvre avant de d'entériner l'accord.
Alors, j'ai une question qui n'est franchement pas originale. Que peut-il se passer dans les heures et les jours qui viennent?
Écoutez, la meilleure solution pour le Royaume-Uni, la meilleure solution pour l'Union européenne, c'est que le Parlement britannique et que le Parlement européen ratifient cet accord qui a été trouvé, qui résout l'immense majorité des questions politiques, l'immense majorité des questions techniques, pour recommencer une négociation sur la relation future. Parce qu'il faut savoir que cet accord, ce n'est que l'accord de séparation. C'est-à-dire, cet accord, en fait, il tranche sur 3 grosses questions. Il protège le droit des citoyens qui sont européens au Royaume-Uni, britanniques en Europe. C'est très important, c'est quelque chose sur lequel, moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé ici, dans le cadre de l'examen de loi pour se préparer à un no deal, dont j'étais le rapporteur.
Ouais.
Il règle la question de la contribution financière du Royaume-Uni au prochain budget européen.
Dont le montant, d'ailleurs, n'est pas tout à fait officiel, puisqu'il y a des chiffres assez contradictoires qui circulent.
Alors, il y a des chiffres contradictoires qui circulent parce que le montant d'une contribution financière, je ne peux pas entendre la technicité, mais fluctue en fonction des années. On a la même chose, nous. D'ailleurs, on votera aujourd'hui, cet après-midi, on examinera en France la contribution française au budget européen. Elle fluctue au fur et à mesure de l'année, mais c'est un calcul préétabli.
Ouais.
Et la troisième question qui résout, c'est l'épineuse question de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire de réussir à ne pas avoir de frontières en Irlande du Nord, pas de frontières physiques, mais à protéger les intérêts européens, c'est-à-dire l'intégrité du marché commun. Et ces 3 choses, elles sont faites dans cet accord. Donc maintenant, la meilleure solution pour les 2 parties, c'est que cet accord soit ratifié par l'Union européenne, par les Britanniques, et qu'on commence enfin la négociation de substance, qui est la négociation pour avoir une relation future qui est constructive.
Vous avez évoqué l'Irlande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, là aussi, le plus simplement possible, ce qu'est ce fameux backstop? Parce que ça a été, et ce sera peut-être encore l'un des points de crispation les plus importants dans les discussions. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que ce backstop?
Alors, le backstop, à l'origine de l'idée telle qu'elle a été proposée, c'était l'idée que si jamais aucune solution n'était trouvée dans la deuxième partie de la négociation, le Royaume-Uni entier resterait dans l'union douanière européenne, ce qui éviterait de rétablir une frontière physique en Irlande du Nord,
ouais.
À la frontière de l'Irlande, de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord. Parce que ça, c'est un objectif clé, parce que c'est la condition de la paix en Irlande du Nord. Cette idée, elle n'était pas bornée dans le temps. Donc les Britanniques étaient très contre.
Très remontés contre cette idée. Ça les maintenait d'une certaine manière dans l'Union européenne.
Si jamais il n'y avait pas de solution, c'était une assurance, en fait. C'était une politique d'assurance. Donc on a travaillé, enfin Michel Barnier a travaillé longuement avec les négociateurs britanniques pour essayer de trouver une solution alternative qui remplisse les mêmes objectifs, protéger le marché commun, priorité numéro 2 après les droits des citoyens de notre côté, et en même temps répondre aux considérations politiques que les Britanniques avaient. Et l'alternative a été trouvée. Alors elle est très compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle permet l'absence d'une frontière en protégeant le marché commun et en donnant l'Assemblée démocratique nord-irlandaise un droit de regard sur son prolongement dans le temps.
Est-ce qu'on peut être sûr aujourd'hui que l'accord obtenu jeudi dernier ne sera plus modifié d'une virgule même, en tout cas du point de vue du côté de l'Union européenne, du côté de la Commission européenne?
Ah nous, il est très clair. Cet accord, c'est le fruit maintenant d'un travail considérable, d'une flexibilité considérable pour arriver à remplir toutes les conditions politiques et techniques nécessaires pour trouver quelque chose qui est acceptable par les deux parties. Aujourd'hui, c'est l'accord final. Hein. Il faut être très clair. Il y a plus d'autres accords.
Alors, je vous demandais tout à l'heure ce qui pourrait se passer dans les heures ou les jours qui viennent. Vous m'avez dit le mieux, ce serait qu'ils le votent. Mais enfin, si ça ne se passe pas comme ça, que peut-il se passer alors?
Bon, écoutez, moi, j'aime pas trop faire de la politique fiction.
On est un peu obligé avec le Brexit.
J'aime pas trop faire de la politique fiction. Il est évident qu'il y a plusieurs solutions. Les Britanniques peuvent demander un report, mais vous savez, un report, nous, il faut savoir pourquoi. C'est pas le premier report, c'est pas le deuxième report, c'est pas le troisième report, c'est le quatrième report. Donc maintenant, les Britanniques, si jamais ils nous demandent un autre report, ils doivent nous dire, on veut un report parce qu'il y a un changement de circonstances très conséquent qui va arriver, qui permettra de débloquer la situation. Mais si la demande de report, c'est il nous faut un autre report de 3 semaines pour se retrouver dans la même situation dans 3 semaines, pour demander un autre report de 3 semaines et ainsi de suite. Vous savez, j'avais dit au tout début de cette histoire, l'Union européenne, c'est pas un abonnement Netflix. Vous pouvez pas le reconduire par un mois tacitement tous les mois. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. On rentre maintenant dans une nouvelle période budgétaire européenne de 7 ans. Si on fait un nouveau report, qu'est-ce que les Britanniques font? Ils participent au prochain budget européen de 7 ans. On nomme en ce moment une commission européenne. Si les Britanniques restent encore pendant 4 mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils nomment un commissaire intérim pendant 7 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. Donc non, il ne faut pas exclure un nouveau report, mais il faut être très clair, les Britanniques doivent nous donner, si jamais les Britanniques refusent ce deal et demandent un nouveau report, ils doivent nous donner une raison très 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 crédible pour nous expliquer ce qui changera concrètement dans ce cas de figure-là.
Vous avez beaucoup travaillé sur l'hypothèse d'un no deal. Quels seraient finalement les pays les plus touchés? Est-ce que la France en subirait durement les conséquences?
Alors j'ai travaillé longuement parce que depuis l'année dernière déjà, le gouvernement et la majorité travaillent pour préparer la France pour être le plus près possible à l'issue d'un no deal. Aujourd'hui c'est très clair, hein, le no deal ça impacte en premier le Royaume-Uni, très gravement l'économie du Royaume-Uni, en deuxième l'Irlande, très gravement parce que évidemment l'économie irlande passe entièrement par le Royaume-Uni, et après dans une moindre mesure des pays européens. Aujourd'hui la France est prête, grâce au travail qu'on a entrepris, la France est prête, les citoyens sont protégés. Notre frontière, qui est la grande frontière entre le marché commun et le Royaume-Uni, qui est le tunnel sous la Manche, continuera à fonctionner. Toute une sorte de série technique, de détails techniques, par exemple, les avions continueront à faire l'aller-retour. Mais il faut être très clair, être prêt, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Ouais. Tous les acteurs déjà doivent se mobiliser. Donc allez sur brexit.gouv.fr pour voir ce que vous devez faire dans votre chaîne de valeur, ce que vous devez faire si vous êtes un citoyen britannique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il est évident que quand vous passez d'un État où il n'y a aucune friction, aucune barrière, à un État où il y en a une, même aussi sophistiquée soit-elle, il y aura toujours une conséquence et un ralentissement.
Merci Alexandre Holroyd. Bonne journée.
Merci.